Chapitre 16. Ah, Bouffrenon, qui ne l'était pas d'ici, les juges du pauvre Tartarin. Il n'y avait pour s'en convaincre qu'à les voir, par cette flamboyante après-midi d'août, où se plaidait l'affaire du gouverneur dans la grande salle du palais de justice, pleine à faire craquer les murs. Le mois d'août à Tarascon, je vous dirais, est le mois de la lourde chaleur. Il y fait chaud comme en Algérie, et les précautions contre l'ardeur du ciel sont les mêmes que dans nos villes d'Afrique. La retraite dans les rues avant midi, les casernes consignées, les auvents mis à toutes les boutiques. Mais le procès de Tartarin avait changé ses habitudes locales, et l'on imagine aisément la température que devait atteindre cette salle d'audience bondée de monde, avec les dames à falbala et à panache empilées sur les tribunes du fond. 2 heures sonnaient au jacquemart du palais, et par les hautes fenêtres larges ouvertes, devant lesquelles descendaient de longs rideaux jaunes formant store, entrait avec les battements de la lumière réverbérée le bruit assourdissant des cigales sur les alisiers et les platanes du cours, gros arbres à feuilles blanches, à feuilles de poussière, les rumeurs de la route, foule restée dehors, et les cris des marchands d'eau comme aux arènes les jours de course. « Qui veut boire? L'eau est fraîche !» Vraiment, il fallait être de Tarascon pour résister à la chaleur qu'il faisait là-dedans. Une de ces chaleurs où même un condamné à mort se serait endormi pendant le prononcé de sa sentence. Aussi les plus écrasés dans la salle étaient-ils les 3 juges, tous étrangers à ce brûlant midi. Le président Mouillard, un Lyonnais comme un Suisse de France, l'air austère, tête longue, chevelu et philosophique, donnant envie de pleurer rien qu'à le regarder, et puis ses 2 assesseurs, Berkman, qui arrivait de Lille, et Robert du Nord, d'encore bien plus haut. Dès le commencement des débats, ces 3 messieurs étaient tombés malgré eux dans une vague torpeur, les yeux fixés sur les grands carrés de lumière découpés derrière les rideaux jaunes, et pendant l'interminable appel des témoins, au nombre de 250 au moins, et tous à charge, ils avaient fini par s'endormir tout à fait. Les gendarmes, qui n'étaient pas du midi davantage, et à qui l'on avait eu la cruauté de laisser leur lourde buffleterie, dormaient aussi. Sans doute, ce sont là de mauvaises conditions pour rendre la vraie justice. Heureusement que les magistrats avaient étudié l'affaire d'avance. Sans cela, ils n'y auraient jamais rien compris, n'entendant dans leur inattentive somnolence que le bruit des cigales et un confus bourdonnement de mouches et de voix. Après le défilé des témoins, le substitut Bompard du Mazet commença la lecture de l'acte d'accusation. « Ah, du plein midi, celui-là, par exemple. Un tout petit, velu, chevelu, bedonnant, une barbe en copeaux noirs, des yeux sortis comme d'un coup de pouce et tout sanglant dans un teint de vésicatoire, une voix de cuivre qui vous crachait du métal dans les oreilles et une mimique et des bons. La gloire du parquet tarasconnais. On faisait des lieux pour l'entendre, mais cette fois... Ce qui pimentait son réquisitoire, c'était la parenté de l'orateur avec le fameux Bompard, une des premières victimes de l'affaire de Port-Tarascon. Jamais accusateur ne se montra plus acharné, plus passionné, moins juste, moins partial. C'est ce qu'on aime à Tarascon, tout ce qui vibre, tout ce qui vous monte. Comme il le secouait, le pauvre Tartarin, assis avec son secrétaire entre 2 gendarmes. Quel loque sous ses crocs baveux devenait tout ce passé de gloire. Pascalon, éperdu, honteux, se cachait la tête dans ses mains. Mais Tartarin, lui, très calme, écoutait, le front droit, les yeux clairs, sentant sa journée finie, l'heure venue du grand déclin, sachant qu'il y a des lois naturelles de grandeur comme de pesanteur, et résigné à les subir toutes, pendant que Bompard du Mazet, de plus en plus insultant, le représentait comme un vulgaire escroc abusant d'une renommée illusoire, de lion peut-être jamais tué, d'ascension peut-être jamais faite, s'associant à un aventurier, à un inconnu, à ce duc de Mons que la justice ne retrouvait même pas devant elle. Et il faisait Tartarin plus scélérat encore que ce duc de Mons, qui du moins n'exploitait pas ses compatriotes, tandis que lui avait spéculé sur les Tarasconnais, les avait volés, jugulés, réduits à aller aux portes, à fouiller les balayures pour y chercher leur pain. Qu'attendre d'ailleurs, messieurs de la cour, qu'attendre d'un homme qui a tiré sur la Tarasque, sur la mer Grande? À cette péroraison, des sanglots patriotiques roulèrent dans les tribunes. Des hurlements leur répondaient de la rue, où la voix du substitut était arrivée, fracassant portes et fenêtres. Et lui-même, bouleversé par ses propres accents, se mit à larmoyer, à gargouiller si fort que les juges se réveillèrent en sursaut. Croyant que toutes les gouttières et chéneaux du palais crevaient sous une pluie d'orage. Bompard Dumazet avait parlé pendant 5 heures. À ce moment, bien que la chaleur fût encore écrasante, un petit vent frais du Rhône commençait à gonfler les rideaux jaunes des fenêtres. Le président Mouillard se rendormit plus et, fort nouvellement installé dans le pays, la stupeur où le plongeait la fougue inventive des Tarasconnais suffit largement à le tenir éveillé. Tartarin le premier donna le signal de cette naïve et délicieuse imposture qui est comme l'arôme le bouquet de l'endroit. Un passage de son interrogatoire, que nous croyons devoir raccourcir, il se leva brusquement et la main tendue. « Devant Dieu et devant les hommes, je jure que je n'ai pas écrit cette lettre !» Il s'agissait d'une lettre envoyée par lui de Marseille à Pascalon, rédacteur de la Gazette, pour l'émoustiller, l'exciter à des inventions plus fertiles, plus abondantes. Non, mille fois non, l'accusé n'avait pas écrit cela. Il se débattait, protestait. Peut-être, je ne dis pas, le sieur de Mons, mon comparant. Et comme il sifflait entre ses lèvres les dédaigneux, ce non-comparant, le président alors. Faites passer cette lettre à l'accusé. Tartarin la prit, la regarda et répondit très simplement. Ben, c'est vrai, c'est bien mon écriture. Cette lettre de moi, je ne me rappelais pas. Oh, il y avait de quoi faire pleurer des tigres. Un moment après, le même épisode avec Pascalon, à propos d'un article de la Gazette, racontant la réception de l'hôtel de ville de Port-Tarascon des passagers de la Farandole et du Lucifer par les indigènes, le roi Négonco et les premiers occupants de l'île, avec une description très détaillée de l'hôtel de ville. La lecture de cet article soulevait à chaque mot dans la salle d'inextinguible fou rire coupé de cris d'indignation. Pascalon lui-même se révoltait, protestait de son banc à tour de bras. Ce n'était pas de lui, jamais de la vie, il n'aurait pu signer de si énormes invraisemblances. On lui mit sous les yeux l'article imprimé, illustré d'images faites sur ses indications, signé de son nom, de plus son propre texte retrouvé à l'imprimerie Trinquelague. Oh, « c'est écrasant, dit alors le malheureux Pascalon, les yeux en boule, ça m'était complètement sorti de la tête. » Tartarin prit la défense de son secrétaire. « La vérité, monsieur le président, c'est que croyant aveuglement à toutes les histoires du sieur de Mons, non comparant. » Oh, il a le bon dos, le sieur de Mons, interrompit férocement le substitut. Je donnais à ce malheureux enfant, continua Tartarin, l'idée de l'article à faire en lui disant « Brodez là-dessus !» Et il brodait. C'est vrai que je n'ai jamais fait que pour broder, bégaya timidement Pascalon. Des brodeurs, il allait en voir le président Mouillard. En interrogeant les témoins, tous de Tarascon, tous inventifs, démentant aujourd'hui ce qu'ils avaient affirmé la veille. Mais vous l'avez dit à l'instruction. Moi, je ne dis ça au vrai. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Mais vous avez signé. Signé ? Pas plus. Voici votre signature. C'est pas dit vrai. Eh bien, monsieur le président, personne de plus surpris que moi. Et pour tous, c'était ainsi. Aucun ne se rappelait. Les juges restaient effarés, hagards, devant ces contradictions, ces apparences de mauvaise foi, ne sachant pas ces froids hommes du Nord faire la part de l'invention et de la fantaisie des pays de lumière. Un des plus extraordinaires fut Costecalde, racontant qu'il avait été chassé de l'île, forcé d'abandonner sa femme et ses enfants par les exactions de Tartarin, le tyran, et il fallait entendre le drame de la chaloupe, les morts effrayantes et successives de ses malheureux compagnons, Rugimabot qui nageait près de la barque pour se donner un peu de fraîcheur au corps, brusquement entraîné par un requin coupé en deux. Le sourire de mon ami, je le vois encore. Me tendait les bras, j'allais à lui, et tout à coup sa figure se crispe, il disparaît, plus rien. Rien qu'un rond de sang qui s'élargissait sur l'eau. Et il faisait un grand rond devant lui avec sa main crispée, tandis que de ses yeux tombaient des larmes grosses comme des pois chiches. En entendant le nom de Rugimabot, les deux juges Bergman et Robert du Nord, depuis un moment réveillés, se penchèrent vers leur président, et dans l'unanime explosion de sanglots causée par le récit de Costelade, on voyait les trois toques noires dodelinant de l'une à l'autre. Puis le président Mouillard s'adressa aux témoins. Vous dites que Rugimabot a été mangé sous vos yeux par un requin. Mais le tribunal vient d'entendre comme cité à charge un certain Rugimabot débarqué de ce matin. Ne serait-ce pas le même que celui de la chaloupe ? Mais si, parfaitement, c'est moi, je suis le même, clama l'ancien sous-directeur aux cultures. Tiens, Rugimabot est ici, fit Costelade de pas plus troublé. Je ne l'avais pas vu, c'est la première nouvelle. Une toque noire observa. Alors il n'aurait pas donc été mangé comme vous venez de le dire. C'est que j'aurais confondu avec Truphénus. Bouffre, mais je suis là moi aussi, j'ai pas été mangé, protesta la voix de Truphénus. Et Costecalde, qui commençait à s'impatienter, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, je sais toujours qu'il n'y a eu un de dévoré par un requin, j'ai vu le rond. Là-dessus, il continua sa déposition comme si rien ne s'était passé. Avant qu'il quittât la barre, le président voulut savoir à combien se montait selon lui le nombre des victimes. Le témoin répondit 40 000 au moins, ce qui est la façon là-bas de prononcer 40 000. Or, comme les registres de la colonie constataient qu'il n'y avait jamais eu plus de 400 habitants dans l'île, on se figure l'effarement du président Mouillard et de ses juges. Ils en suaient à plein seau, les malheureux, n'ayant jamais ouï débat pareil. Des positions aussi extravagantes. Ce n'était sur ce banc des témoins que démenti farouche, brusques interruptions, des gens qui bondissaient, s'arrachaient les mots de la bouche, à croire que la bouche allait venir avec, et les grincements de dents, et les rires démoniaques. Un procès fantastique, tragicomique, où il n'était question que de tarasconner, manger, noyer, cuit, rôti, bouilli, dévoré, tatoué, haché en petits morceaux, se retrouvant là tous sur le même banc, bien portant, leurs membres au complet, sans une dent de moins, pas même une éraflure. Les deux ou trois qui manquaient encore à l'appel, on les attendait d'une minute à l'autre. Ils devaient avoir eu la même veine que leurs compagnons, et c'est pour cela que le juge d'instruction Bonaric, plus au fait des mœurs de ses compatriotes, avait engagé le président à laisser de côté la question d'homicide par imprudence. Cependant, le défilé des témoins continuait, de plus en plus bruyant et cocasse. Dans la salle, le public prenait parti, conspuait, applaudissait, riant sans peur ni vergogne au lieu du président, qui menaçait à chaque instant de faire évacuer le prétoire, mais tout ahuri lui-même, partant de vacarme et d'incohérence, ne faisait rien évacuer du tout, et les coudes sur la table prenaient à deux mains sa tête près d'éclater. Dans une embellie relative, Robert du Nord, un grand vieux mince, aux lèvres ironiques entre deux longues floches de favoris blancs, dit en se reversant la toque sur l'oreille, « En somme, dans tout cela, je ne vois guère que la tarasque qui ne soit pas revenue. » Le substitut Bompard du Mazet et se dressa brusquement, sortit de sa boîte comme un diable. « Et mon oncle ?»« Et Bompard ?» fit la salle en écho. Le substitut continua de sa voix d'ophicléide. « Je ferai remarquer au tribunal que mon oncle Bompard a été un des premières victimes. Si j'ai eu la discrétion de ne pas parler de lui dans mon réquisitoire, il n'en est pas moins vrai que celui-là, du moins, n'est pas revenu et qu'il ne reviendra jamais. »« Pardon, monsieur le substitut, » interrompit le président. « Mais voici justement un monsieur Bompard qui me fait passer sa carte et demande à être entendu. Est-ce le vôtre ?» C'était le sien, Bompard, Gonzague. Ce nom, si connu de tous les Tarasconnais, souleva un immense tumulte. Public, témoins, accusés, tout le monde était debout, montait sur les bancs, se penchait, criait, cherchait à voir, haletant d'impatience et de curiosité. Devant cette agitation, le président Mouilloire ordonna une suspension d'audience de quelques minutes, dont on profita pour emporter une douzaine de gendarmes évanouis, demi-morts de chaleur et d'ahurissement. Chapitre 17. C'est lui, c'est Gonzague, vé, comme il a forci! Qu'il est blafard! Oh, il semble un teur, un turc. Depuis si longtemps qu'il ne l'avait vu, une Tarasconnais le reconnaissait à peine. Ce brave Bompard, si maigre autrefois, avec sa tête de palicard moustachu, ses yeux de chèvre folle. Gras maintenant, bout d'enflé, comme ils disent, mais la même moustache, les mêmes yeux délirants, dans sa face élargie et bouffie. Sans regarder ni à droite ni à gauche, il s'avança derrière l'huissier jusqu'à la barre. Demande. C'est bien vous, Gonzague Bompard ? Ben, dire le vrai, monsieur le président, j'en doute presque quand je vois. Et vaste geste emphatique de Bompard vers le banc des accusés. Quand je vois, dis-je, sur ce banc d'infamie, notre gloire la plus pure, quand j'entends conspuer dans cette enceinte l'honneur et la probité même. Bon, « Merci, Gonzague !» fit de sa place Tartarin étranglé d'émotion. Il avait supporté sans broncher toutes les injures, mais la sympathie de son vieux camarade lui crevait le cœur, lui faisait monter les larmes comme un enfant sur lequel on s'apitoie. Bompard reprit. « Va, mon vaillant concitoyen, tu n'y moisiras pas sur ton salement. J'apporte ici la preuve. » Il cherchait dans ses poches, tirait une pipe de Marseille, un couteau, un vieux silex, un briquet, un peloton de ficelle, un mètre, un baromètre, une boîte homéopathique et posait ses objets l'un après l'autre sur la table du greffier. « Voyons, témoin Bompard, quand vous aurez fini, » dit le président impatienté. Et le substitut Bompard du Mazet. « Alors, mon oncle, dépêchons-nous. » L'oncle se retourna vers lui. « Ah oui, je t'engage, toi, après tout ce que tu t'es permis de dire à notre pauvre ami. Attends un peu que je te déshérite, c'est les rats. » Le neveu resta froid sous cette menace, et l'oncle, toujours en quête dans ses poches, étalant devant lui toute une collection d'objets fantastiques, trouva à la fin ce qu'il cherchait, une grande enveloppe scellée de 5 cachets rouges. « Monsieur le Président, voici un document duquel il appert que le duc de Beauce est le dernier des drôles, des galériens, des... » Oh, les gros mots allaient venir, le président interrompit. « C'est bon, donnez le document. » Il ouvrit la lettre mystérieuse, et après l'avoir lue, la communiqua à ses deux assesseurs, qui mirent leur nez dessus, l'épluchèrent soigneusement, sans rien laisser voir de leurs impressions. « Oh, de vrais juges du Nord, pardi, fermés, cadenassés !» Qui avait-il dans cette coquine de lettres? Avec ces types-là, il était difficile de s'en faire une idée. Les assistants se haussaient, se penchaient, regardant de loin, les mains en abat-jour. On s'interrogeait jusqu'au fond des tribunes. Mais qu'est-ce? Qu'est-ce que diable ça peut être? Et comme tous les incidents de l'audience gagnaient le dehors, grâce aux fenêtres et aux portes restées ouvertes, une grande rumeur montait sur le cours, des clameurs confuses, le frémissement d'une houle de mer, lorsqu'il se lève une jolie brise. Pour le coup, les gendarmes ne dormaient plus. Les mouches en grappe au plafond se réveillaient elles aussi, et la fraîcheur du soir pénétrant dans la salle, avec l'épouvante des courants d'air particulières aux Tarasconnais, ceux qui étaient près des fenêtres demandaient à grands cris qu'on fermât qu'il y avait de quoi prendre le mal de la mort. Pour la 100e fois, le président Mouillargues la pie. « Un peu de silence ou je fais évacuer !» Et l'interrogatoire continua. « Ne témoin, Bompard. « Comment cette lettre est-elle venue entre vos mains et à quel moment ?»« Ben, au départ de la farandole à Marseille, le duc ou, soi-disant, duc de Beauce, me remit donc mes pouvoirs de gouverneur provisoire de Port-Tarascon et en même temps, il me glissa ce pli fermé de 5 cachets rouges, bien qu'il n'y eût pas d'argent dedans. J'y trouverai, disait-il, ses dernières instructions. » Et il me recommandait bien de ne pas l'ouvrir que devant une quelconque des îles de l'Amirauté, par je ne sais quel degré de latitude et de longitude. Du reste, c'est marqué sur l'enveloppe, vous pouvez voir. Oui, oui, je vois. Et alors? Alors, monsieur le Président, voilà que je fus pris de cette maladie subite qu'on a dû vous dire et même contagieuse et cangrégneuse et tout... qu'on fut obligé de me descendre agonisant au château d'If. Alors, une fois à terre, je me tordais de douleur, toujours la lettre dans ma poche, car j'avais oublié au milieu de mes souffrances de la donner à Bézuquet en lui repassant les pouvoirs. Un oubli regrettable. Et ensuite? Ensuite, monsieur le Président, quand je fus un peu mieux, que je pus me lever et reprendre mes habillements, au poids encore bien solide. Ah, oh, si vous aviez vu ce que je semblais. Un jour, j'envoyais la main à la poche par hasard. Té, la lettre au cachet rouge. Le président, d'un ton sévère. Témoin Bompard, ne serait-il pas plus conforme à la vérité de dire que cette lettre, destinée à être décachetée qu'à 4 000 lieues de France, vous avez préféré l'ouvrir tout de suite et en plein port de Marseille pour savoir ce qu'il y avait dedans et qu'en lisant son contenu, vous avez reculé devant les responsabilités énormes qui vous incombaient? Ah, oh, vous ne connaissez pas Bompard, monsieur le président. J'en appelle à Tarascon tout entier, ici présent. Un silence de tombe accueillit cet effet oratoire. Surnommé l'imposteur par ses concitoyens, qui ne sont pourtant pas très scrupuleux en fait de véracité, Bompard montrait vraiment un fier toupet de les appeler en témoignage. Aussi, Tarascon interrogé ne répondit rien. Et lui, sans s'émouvoir, « Vous verrez, monsieur le juge, qui ne dit rien, bon consent. » Et reprenant son récit. Pour lors, quand je retrouvais la lettre, Bézuquet, parti depuis des semaines, était trop loin pour que je la lui passe. Je me décidai donc à en prendre connaissance et vous pensez pour l'horrible situation. Très horrible aussi était la situation de l'auditoire qui ne savait toujours pas ce que contenait cette lettre restée sur le bureau du tribunal et dont on parlait tout le temps. Et chacun de tendre le cou. Mais de si loin, on ne pouvait rien voir que les grands cachets rouges hypnotisants de l'enveloppe qui de minute en minute semblaient grandir, devenir énormes. Bompard continua. « Que faire, je vous demande, après avoir pris communication de ces horreurs ?»« Rattraper la farandole à la nage. Oh, je lui ai songé un moment, puis j'ai douté de mes forces. »« Empêcher le tutupampan de partir en révélant à mes compatriotes ce pli abominable. »« Doucher leur enthousiasme de ce grand jet d'eau froide. »« Mais je me suis fait lapider. » Enfin, que voulez-vous, je me suis donné peur. Je n'ai pas même osé me montrer à Tarascon dans mon embarras de savoir que dire. C'est alors que je vins me cacher en face, à Beaucaire, d'où je pouvais tout voir sans être vu. J'y cumulais deux positions, celle de gardien du champ de foire et de conservateur du château. J'avais du loisir, vous pensez? Du haut de la vieille tour, avec une bonne lunette, je regardais de l'autre côté du Rhône l'agitation de mes concitoyens qui se préparaient au départ. Mais je me rongeais, je me désolais. Je leur tendais les bras, je leur criais de loin, comme s'ils avaient pu m'entendre. Arrêtez, ne partez pas. J'ai même essayé de les prévenir par bouteille. Dis-le, Tartarin, dites à ces messieurs que j'essayais de vous prévenir. « Je l'atteste, » dit Barbarin du banc d'infamie. « Oh, ce que j'ai souffert, monsieur le président, quand j'ai vu le tutu-pampan partir pour le pays des chimères. Et j'ai souffert bien plus encore quand ils sont revenus, quand j'ai su qu'en face de moi, je gémissais dans les fers, sur la paille comme un tas de sorbes, mon illustre compatriote Tartarin. Le savoir... dans cette tour faussement accusée. Différemment, vous me direz que j'aurais dû faire plutôt la preuve de son innocence, mais quand on s'est enfoncé dans une mauvaise route, c'est le diable pour se remettre en bon chemin. J'avais commencé par ne rien dire, c'était de plus en plus difficile de parler, sans compter la peur du pont, ce terrible pont qu'il fallait passer. Pas moins que je l'ai passé, ce pont du diable. Je l'ai traversé ce matin par une bourrasque épouvantable obligé de marcher à quatre pattes comme un ascensieur du Mont Blanc. Vous vous rappelez, Tartarin ? Oh, si je me rappelle, répondit Tartarin tristement, avec le regret des heures glorieuses. Ce qu'il tanguait, ce pont, c'est qu'il m'a fallu d'héroïsme. Mais je ne veux pas me vanter, finalement, me voilà. Et cette fois, je rapporte la preuve irréfutable. Irréfutable, croyez-vous, fit Mouillard de sa voix tranquille. Qui nous garantit que cette étrange lettre, oubliée si longtemps dans votre poche, soit bien du duc de Mons ou soi-disant elle? C'est que vous me paraissez sujets et à caution, vous autres Tarasconnais. Tout ce que j'entends de menterie depuis 7 heures. Un sourd grognement de fauves en cage roula dans la salle, dans les tribunes, jusque sur le tour de ville. Tarascon n'était pas content et protestait. Gonzague Bompard, lui, se contenta de sourire ineffablement. En ce qui me concerne, monsieur le président, vous dire que je n'exagère pas toujours un peu lorsque je parle et qu'on pourrait faire de moi le directeur du bureau Veritas, je n'irai pas jusque-là, mais tenez, adressez-vous à celui-ci, il désignait Tartarin, comme Véracité, c'est encore ce que nous avons de mieux à Tarascon. Il ne fallut pas longtemps à Tartarin pour reconnaître l'écriture et la signature du sieur de Mons. Écriture et signature malheureusement trop pratiquées de lui. Puis, tout debout, tourné vers le tribunal, brandissant d'une main rageuse le terrible mystère aux 5 cachets rouges, « À mon tour, monsieur le président, armé de cette élucubration cynique, je vous enjoins de reconnaître que tous les imposteurs ne sont pas du midi. Ah, vous nous appelez menteurs, nous autres de Tarascon, mais nous ne sommes que des gens d'imagination et de paroles débordantes, des trouveurs, des brodeurs, des improvisateurs féconds, ivres de sève et de lumière, qui ne se laissent prendre eux-mêmes à leurs inventions stupéfiantes et ingénues. Quelle différence avec vos menteurs du Nord, sans joie ni spontanéité, qui ont toujours en but une visée scélérate comme le signataire de cette lettre. Oui, certes, on peut le dire à fin de mensonge. Quand le Nord s'en mêle, le Midi ne peut pas lui tenir pied. » Parti sur ce thème, devant un public tarasconnais, Tartarin aurait dû enlever la salle. Mais c'était fini du pauvre grand homme et de sa popularité. Personne ne l'écoutait plus. On n'en avait qu'à cette mystérieuse missive qu'il agitait au bout de son bras. L'infortuné voulait parler encore, on ne lui permit pas. De tous côtés, des cris partaient. « la lettre, enlevez-le, Zou, mais qu'il lise la lettre !» Cédant lui-même à la volonté de la foule, le président Mouillard prononça « Greffier, donnez lecture de la pièce. » Un immense « ah » de soulagement, et dans le silence qui suivit, rien que le bourdonnement des mouches d'août et le crancre des cigales qui rythmaient le battement des poitrines haletantes. Le greffier commença en asillant.
Monsieur Gonzague Bompard, gouverneur provisoire de la colonie de Port-Tarascon, pour être ouvert par 144 degrés 30 d'altitude est en face des îles de l'Amirauté. Mon cher monsieur Bompard, il n'est si bonne plaisanterie qui ne doivent prendre fin. Virez de bord tout de suite et rentrez tranquillement chez nous avec vos caractères. Y a pas d'île, pas de traité, pas de port Tarascon, ni d'art, ni d'hectare, ni de distillerie, ni de sucrerie, ni rien du tout. Seulement, une excellente opération financière qui m'a valu quelques millions à cette heure, soigneusement mise à l'abri, ainsi que mon auguste personne. En définitive, une jolie tarasconnade que vos compatriotes et leur illustre chef Tartarin voudront bien me pardonner puisqu'elle les a distraits, occupés, et leur a rendu le goût de leur délicieuse petite ville qu'ils avaient perdue. Duc de Mons, pas plus duc qu'il n'est de Mons, à peine des environs. Alors cette fois, le président eut beau menacer de faire évacuer la salle, rien ne put contenir les hurlements, les rugissements qui éclatèrent, gagnèrent la rue, le cours, l'esplanade, remplirent toute la ville. Ah, le Belge, le seul Belge, si on l'avait tenu, comment on lui aurait fait le coup du fenestron, la tête la première dans le Rhône. Hommes, femmes, enfants, tous s'en mêlaient, et c'est au milieu de ce charivari épouvantable que le président Rouard prononça l'acquittement de Tartarin et de Pascalon, au grand désespoir de Cicéron Franquemalm, obligé de rentrer et d'avaler son discours. C'est verum enim verum, c'est parce que du parce que scesse, tout le ciment romain de son plaidoyer monumental. L'audience se vidait, le public se répandait par les rues, sur le tour de ville, places et placettes, et continuant de vomir sa colère en vociférations. Belge, seul Belge, menteur du Nord, menteur du Nord. Chapitre 18, suite et fin du mémorial de Pascalon. 8 octobre. En même temps que ma position à la pharmacie Bézuquet, j'ai reconquis l'estime de mes concitoyens et retrouvé l'existence tranquille d'autrefois sur la placette, entre les deux bocaux jaunes et verts de la devanture, avec cette différence que Bézuquet se tient maintenant au fond de la boutique comme si c'était lui l'élève et fait aller le pilon dans le morceau de marbre broyant ses drogues avec une colère. De temps en temps, il s'interrompt pour tirer une petite glace de sa poche et regardait son tatouage. Malheureux Ferdinand, ni pommade, ni cataplasme, rien n'y fait, pas même la petite soupe à l'ail, conseillée par le docteur Tournatoire. Il en a pour la vie de ces infernales enluminures. Moi, cependant, je paquette, j'étiquette, je débite l'aloès et l'épicacouane. Je fais la causette avec le client. Je m'amuse de tout ce qui se raconte en ville. Les jours de marché, il nous vient beaucoup de monde, le mardi et le vendredi, la pharmacie ne les emplit pas. Depuis que les vignes vont mieux, nos paysans se sont remis à se droguer, à se poutringuer. Ils adorent cela dans la banlieue de Tarascon. Pour eux, se purger, c'est une fête. Le reste de la semaine, on est au calme, la sonnette de la boutique tinte rarement. Je passe mon temps à regarder les inscriptions des grands flacons de verre et de faïence blanche, rangés sur les étagères. Sirupus gummi, asafoetida, et le pharmacopeia inscrit en grec au-dessus du comptoir entre deux serpents. Après tant d'agitation, tant d'aventures, ce grand repos de ma vie ne me déplaît pas. Je prépare un volume de vers provençaux, la singurlo, les jujubes. Dans le Nord, on ne connaît les jujubes que comme produits pharmaceutiques. Ici, ces fruits du jujubier sont de petites olives rouges, croquantes et charmantes, sur un arbre au feuillage clair. Je réunirai dans ce volume mes paysages, mes vers d'amour. Pécaille, je la vois quelquefois passer, ma Clorinde, longue et souple, sautillant sur les cailloux pointus de la placette, ce qu'elle appelait là-bas son pays du kangourou, son pain. Elle va à la seconde messe, son livre d'or à la main, suivi de la femme Malric, qui échelait toujours les toits et qui, depuis le retour à Tarascon, est passée du service de Mademoiselle Tournatoire à celui de ces dames des espacettes.
pas une fois Clorinde ne regarde vers la pharmacie. Entrée chez Bézuquet, je n'existe plus pour elle. La ville a repris son aspect tranquille, réinstallée. On se promène sur le cours, sur l'esplanade. Le soir, on va au cercle, à la comédie. Tout le monde est revenu, à l'exception du père Bataillet, resté aux Philippines pour y fonder une nouvelle communauté de pères blancs. Ici, le couvent de Pampérigouste s'est rouvert un tout petit peu. Le révérend père Vézol, Dieu soit loué, y est rentré avec quelques autres révérends, et les cloches ont recommencé de sonner tout doucement, une par une. Nous n'en sommes pas encore au plein carillon, mais on le devine tout proche. Qui se douterait que tant d'événements se sont passés, comme tout cela est déjà loin, et que la race tarasconnaise est facilement oublieuse. Il n'y a qu'à voir nos chasseurs, le marquis d'Espazette en tête, partir tout flambant neuf le dimanche matin, avec la même ardeur à l'espace d'un gibier qui n'existe pas. Moi, le dimanche après déjeuner, je vais rendre mes devoirs à Tartarin. Voilà bien, en haut du cours, la maison aux persiennes vertes, les boîtes des petits décrotteurs devant la grille. Mais tout est fermé, tout est silencieux. Je pousse la porte, je trouve le héros dans son jardin, tournant, les mains derrière le dos, autour du bassin aux poissons rouges, ou dans son cabinet, au milieu des crisses et des flèches empoisonnées. Il ne les regarde seulement plus, ses chères collections. Le cadre est toujours le même, mais que l'homme a changé. Ils ont eu beau l'acquitter, et le grand homme se sent déchu, déboulonné. Il a perdu son socle, et c'est ce qui le rend triste. Nous causons. Le docteur Tournatoire vient quelquefois. Il apporte sa bonne humeur et ses plaisanteries à la Purgon dans ce logis mélancolique. Franck Balme vient aussi le dimanche. Tartarin lui a confié la défense de ses intérêts. Un procès à Toulon avec le capitaine Scrapuccina qui réclame ses frais de rapatriement. Un autre procès avec la veuve Bravida qui se porte partie civile pour ses enfants mineurs. Mais si mon pauvre cher maître perdait ses deux affaires, comment s'en tirerait-il? Il a déjà tant dépensé dans cette lamentable aventure de Port-Tarascon. Que ne suis-je riche? Malheureusement, ce n'est pas ce que je gagne chez Bézuquet qui me permettra de lui venir en aide. 10 octobre. Les jujubes paraîtront en Avignon, chez le libraire Oumanille. Je suis bien heureux. Une autre bonne fortune. On organise une grande cavalcade en l'honneur de la Sainte-Marthe, qui vient le 19 du courant, et en l'honneur aussi de la rentrée des Tarasconnais sur la terre de France. Dourladour et moi, du Félibrige tous les deux, devons représenter la poésie provençale sur un char allégorique. 20 octobre. Hier dimanche, la cavalcade a eu lieu. Long défilé de chars, cavaliers en costumes historiques tendant au bout de leur longue gaule des aumônières pour quêter. Un grand concours de foule, du monde à toutes les fenêtres. Mais malgré tout, l'entrain, la gaieté n'était pas de la fête. L'ingéniosité des organisateurs n'a pu suppléer à l'absence de notre mère grand. On sentait un trou, un vide, le char de la terrasse que manquait. De sourdes rancunes se réveillaient au souvenir du malencontreux coup de fusil tiré sur elle là-bas dans le Pacifique. Des grognements se sont fait entendre dans le cortège en passant devant la maison de Tartarin. Comme la bande à Costecalde essayait d'exciter la foule par quelques cris, le marquis des Espazettes, en costume de templier, s'est retourné sur son cheval. « Paix là, messieurs !» Oh, il avait vraiment grand air, et tout de suite, le désordre s'est arrêté. La tramontane, un vent de neige, soufflait. D'Ourladour et moi, nous la sentions cruellement sous le pourpoint Charles VI, prêté par la troupe d'opéra de passage à Tarascon en ce moment. Assis chacun au haut d'une tour, car notre char, traîné par 6 bœufs blancs, représentait le château du roi René en bois et carton peint, cette coquine de bise nous transperçait, et les vers que nous récitions, nos grands luttes à la main, grelottaient autant que nous. D'Ourladour me disait « Outre, c'est comme gel !» et pas moyen de descendre les échelles qui avaient servi à nous jucher là-haut, ayant été retirées. Sur le tour de ville, le supplice devint intolérable. Et pour nous achever, j'eus l'idée, vanité de l'amour, de prendre par la traverse pour passer devant la maison du marquis des Espazettes. Nous voilà engagés dans ces rues très étroites, tout juste la place pour les roues du char. L'hôtel du marquis était fermé, sombre et muet dans ses vieilles murailles de pierre noire, toutes les persiennes closes, pour bien indiquer que la noblesse boudait les plaisirs de la rafataille. Je dis quelques vers tirés des jujubes de ma voix tremblante, entendant mon filet de quête, mais rien ne bougea, personne ne parut. Alors je donnai l'ordre au conducteur d'avancer. Impossible, le char était pris, encanché des deux côtés. On avait beau tirer devant, tirer derrière, il se trouvait pressé entre les hautes murailles. Et par les persiennes fermées, nous entendions tout près de nous, à notre hauteur, des rires étouffés, pendant que nous restions ridiculement penchés, perchés et transis de froid sur nos tourelles de carton. Décidément, il ne m'a pas porté bonheur, le château du roi René. Il a fallu dételer les bœufs, aller chercher des échelles pour nous descendre, et tout cela a pris du temps. 23 octobre. Qu'est-ce que c'est donc que ce mal de gloire? On ne peut plus vivre sans elle quand une fois on l'a connue. J'étais chez Tartarin dimanche. Nous causions dans le jardin, marchant le long des allées sablées. Par-dessus le mur, les arbres du cours nous envoyaient des paquets de feuilles mortes, et comme je voyais de la mélancolie dans ses yeux, je lui rappelais les heures triomphantes de sa vie. Rien ne pouvait le distraire, pas même les analogies entre son existence et celle de Napoléon. « Ben, vaille Napoléon, la bonne blague. Le soleil et les trois pics m'avaient tapé sur la coloquinte. Ne me parle plus de cela, je vous en prie, vous me ferez plaisir. » Je le regardais, stupéfait. « Pas moins, la dame du commodore. Laisse-moi donc tranquille, elle s'est moquée de moi tout le temps, la dame du commodore. » Nous avons fait quelques pas en silence. Les cris des petits décrotteurs qui jouaient au bouchon devant la porte venaient jusqu'à nous dans les coups de vent portant les feuilles par tourbillon. Il m'a dit encore « J'y vois clair maintenant, les Tarasconnais m'ont ouvert les yeux. C'est comme si l'on m'avait opéré de la cataracte. » Il m'a paru extraordinaire. À la porte, tout à coup, en me serrant la main, « Tu sais, petit, on va vendre chez moi. J'ai perdu mon procès contre Scrapuchina, contre la veuve Bravida aussi, malgré les arguments de Franck Malm. Il bâtit trop solide, ce garçon-là. Son aqueduc romain lui est tombé dessus et nous avons été écrasés sous le poids. Timidement, j'osais lui offrir mes petites économies. Oh, je les aurais données de grand cœur, mais Tartarin a refusé. Merci, mon enfant. Oh, je pense que les armes, les curiosités, les plantes rares feront assez d'argent. Si ça ne suffit pas, je vendrai la maison, après je verrai. Adieu, petit, oh, tout ça n'est rien. Quelle philosophie! 31 octobre. Aujourd'hui, j'ai eu une grande peine. Je servais à la pharmacie la femme Truphénus pour son enfant qui se plaint de lancer dans la tête quand un grincement de roue sur la placette m'a fait lever les yeux. J'avais reconnu les ressorts du grand carrosse de la douairière des Coboulides. La vieille était dedans, sa perruche empaillée à côté d'elle, en face ma Clorinde avec une autre personne que je ne voyais pas bien, car le jour me venait contre seulement un uniforme bleu, un képi brodé. Qui donc est avec ces dames? Mais le petit-fils de la douairière, le vicomte Charles-Alexis des Coboulides, qui est officier de chasseur. Ah, vous ne savez donc pas que mademoiselle Clorinde et lui doivent s'épouser le mois qui vient. Oh, ça m'a donné un coup. Je devais sembler la mort. Et moi, qui gardais encore un espoir. Bon, tout à fait un mariage d'inclination, continuait ce bourreau de femme Truphénus. Ben, vous savez ce que nous en disons. Qui se marie par amour, bonne nuit et mauvais jour. Ben, j'aurais bien voulu me marier ainsi, pécaïré. 5 novembre. On a vendu hier chez Tartarin. Je n'y étais pas, mais Franck Balm, venu le soir à la pharmacie, m'a raconté la scène. Il paraît que c'était navrant. La vente n'a rien fait. On vendait devant la porte, selon l'habitude de chez nous. Rien, pas un sou, et pourtant il était venu beaucoup de monde. Ses armes de tous les pays, flèches empoisonnées, sagaies, atagans, revolvers Winchester à 32 coups, rien de rien. Rien les magnifiques peaux de lion de l'Atlas. Rien l'Alpenstock, son glorieux bâton de la Jungfrau, toutes ses richesses, ses curiosités, vrai musée de notre ville, vendu à des prix dérisoires. Oh, la foi perdue. Et ce baobab dans son petit pot, qui pendant 30 ans a fait l'admiration de la contrée. Quand on l'a mis sur la table, quand le crieur a annoncé Arbos Gingatea, des villages entiers peuvent tenir sur son ombrage. Il paraît qu'il y a eu un fou rire. De chez lui, Tartarin les entendait s'errir en tournant dans son petit jardin avec deux amis. Il leur a dit sans amertume « Opérez de la cataracte aussi, mes bonnes Tarasconnais. Ils y voient maintenant, mais ils sont cruels. » Le plus triste, c'est que la vente n'ayant pas produit assez, il a dû céder la maison aux espacettes qu'il a destinées aux jeunes ménages. Et lui, le pauvre grand homme, où ira-t-il? Passera-t-il le pont, comme il en a vaguement parlé? Se réfugiera-t-il à Beaucaire, auprès de son vieil ami Bompard? Pendant que Franck Balm, debout au milieu de la pharmacie, me racontait ses épisodes sinistres, Bézuquet, dans le fond, apparaissant à demi par l'entrebâillement de la porte avec ses enluminures ineffaçables, a lancé dans un rire de démon papouas. « C'est bien fait, c'est bien fait !» comme si c'était Tartarin qui l'eût tatoué lui-même. 7 novembre. C'est demain dimanche que mon beau maître doit quitter la ville et passer le pont. Est-ce possible? Tartarin de Tarascon devenu Tartarin de Beaucaire. Voyez, rien que pour l'oreille, quelle différence! Et puis ce pont, ce terrible pont à passer. Je sais bien que Tartarin a franchi d'autres obstacles. C'est égal, ce sont là de ces choses qui se disent dans la colère, mais qui ne se font pas. Je doute encore. Dimanche 10 décembre. 7 heures du soir, je rentre navré. À peine la force de jeter ces quelques lignes. C'est fait. Il est parti. Il a passé le pont. Nous nous étions donné rendez-vous chez lui à 3 ou 4 Tournatoire, Franqueballe, Baumevieille, puis Malbos, un ancien de la milice, qui nous a rejoints en route. J'avais le cœur serré devant la détresse de ces murs nus, de ce jardin dépouillé. Tartarin n'a même pas regardé autour de lui. C'est là ce que nous avons de bon, nous autres Tarasconnais, notre mobilité. Par elle, nous sommes moins tristes que les autres peuples. Il a donné les clés à Franquebalme. Vous les remettrez au marquis des Espazettes. Je ne lui en veux pas de n'être pas venu, c'est tout naturel. Comme disait Bravida, amour du Seigneur, amitié du verre, ils ont fait de nous, et ils ne veulent plus nous voir. Il se tournant vers moi, tu en sais quelque chose, petit. Cette allusion à Clorinde m'a touché. Pensez à moi au milieu de ces circonstances. Une fois sorti sur le cours, faisait un vent terrible. Nous pensions tous en nous-mêmes, gare le pont tout à l'heure. Lui ne semblait pas le moins du monde préoccupé. À cause du mistral, on ne voyait personne en ville. Rencontrait seulement la musique qui revenait de l'esplanade, les soldats empêtrés dans leurs instruments, retenant d'une main les pans de leurs capotes que le vent envolait. Tartarin parlait lentement, en marche au milieu de nous, comme pour une promenade. Il nous entretenait de lui, rien que de lui, ainsi qu'à son habitude. Mais voyez-vous, j'ai le mal des gens de chez nous. Je me suis trop nourri de Regardelle. À Tarascon, nous appelons Regardelle tout ce qui tente les yeux, dont nous avons envie et que la main n'atteint pas. C'est la nourriture des rêveurs, des gens d'imagination. Et Tartarin disait vrai, personne plus que lui n'a consommé de Regardelle. Comme je portais le sac, le cardon à chapeau, le par-dessus de mon héros, je marchais un peu derrière, je n'entendais pas tout. Des mots m'échappaient dans le vent, qui redoublaient à mesure qu'on approchait du Rhône. J'ai compris qu'il disait n'en vouloir à personne, et parlait de son existence avec une douce philosophie. Ce gueusard de Daudet a écrit de moi que j'étais un Don Quichotte dans la peau de Sancho. Ah, il a dit vrai. Ce type de Don Quichotte souffle, douillet, emporté dans sa graisse et toujours inférieur à son rêve, est assez fréquent à Tarascon et dans sa banlieue. Un peu plus loin, un tournant de traverse, nous avons vu fuir le Don d'Escourbagnès, qui, en passant devant le magasin de l'armurier Costecalde, nommé de ce matin conseiller municipal de la ville, criait à toute gorge « Ha ha, fin de brute, vive Costecalde !» « Même à celui-là, je ne lui en veux pas, » dit Tartarin. Pourtant, cet Escourbagnès représente le plus horrible côté du midi tarasconnais. Je ne parle pas de ses cris, quoiqu'il brame vraiment plus que de raison, mais de cet épouvantable désir de plaire, d'être aimable, qui l'amène au plus abject de lâcheté. Il est devant Costecalde, oh le Tartarin! Oh, il serait avec moi que pour me flatter, il en crierait autant de costecarde. À part ça, mes enfants, jolie race, la race tarasconnaise. Et sans elle, la France, depuis longtemps, serait morte de pédantisme et d'ennui. Nous arrivions au Rhône. Devant nous, un couchant triste, quelques nuages très hauts. Le vent semblait se calmer. Tout de même, le pont n'était pas rassurant. On s'arrêta à l'entrée et il ne demanda pas d'aller plus loin. Alors, adieu, mes enfants. On s'embrassa. Il commença par Beaumeuil, le plus âgé, et finit par moi. Oh, je pleurais, tout ruisselant, sans pouvoir m'essuyer, car j'avais toujours la mallette et le pardessus, et je peux dire que le grand homme a bu mes larmes. Ému lui-même, il prit ses effets, carton d'une main par-dessus sur le bras, la mallette de l'autre main, et comme tournatoire, lui disait « Surtout Tartarin, soignez-vous bien, climat malsain, Beaucaire. Petite soupe à l'ail, n'oubliez pas !» Il répondit en clignant de l'œil. « N'ayez pas peur, vous savez le proverbe de la vieille. Au plus la vieille allait, au plus elle apprenait, et pour ça, mourir ne voulait, oh, je ferai comme elle. » Nous le vîmes s'éloigner sous les arceaux, un peu lourd, mais à bon pas. Le pont tanguait horriblement. Deux ou trois fois, il s'arrêta à cause de son chapeau qui partait. Nous lui crions de loin, sans avancer, « Adieu, Tartarin !» Lui ne se retournait pas, ne disait rien, trop ému. Seulement avec le carton à chapeau, il nous faisait signe aussi par derrière. « Adieu, adieu !» Trois mois après, dimanche soir, je rouvre ce mémorial depuis longtemps interrompu, ce vieux registre vert que je laisserai à mes enfants, si j'en ai jamais, usé au coin, commencé à 5 000 lieues de France, qui m'a suivi sur mer en privant partout. Un peu d'espace m'y reste, j'en profite pour consigner le bruit qui courait en ville ce matin. Tartarin a cessé de vivre. On n'avait plus de ses nouvelles depuis 3 mois. Je savais qu'il demeurait à Beaucaire près de Bompard, qu'il l'aidait à garder le champ de foire et à conserver le château. Métier de regardelle, en somme, ces métiers-là. Bien souvent, me languissant de mon bon maître, je m'étais proposé de l'aller voir, mais ce diable de pont me retenait toujours. Une fois, regardant du côté du château de Beaucaire, là-haut, tout en haut, je me figurais voir quelqu'un qui braquait une lorgnette vers Tarascon. Ça avait l'air de bon pas. Il disparut, entra dans la tour, et revint avec un autre, très gros, qui semblait Tartarin. Celui-ci prit la lunette, lui aussi, et la lâcha, pour faire aller ses bras en signe de connaissance, mais c'était si loin, si petit, si vague, que je n'eus pas l'émotion que j'aurais cru ressentir. Ce matin, tout angoissé sans savoir pourquoi, je suis sorti en ville, pour ma barbe, comme tous les dimanches, et j'ai été frappé de voir le ciel voilé, roux, un de ces ciels sans lumière qui mettent en valeur les arbres, les bancs, les trottoirs, les maisons. J'en ai fait la remarque en entrant chez Marc Aurel le barbier. Quel drôle de soleil, il ne chauffe pas, n'éclaire pas. Est-ce qu'il y a une éclipse? Mais comment, monsieur Pascalon, vous ne le savez pas? Elle est annoncée depuis le 1er du mois. Et en même temps qu'il me tenait par le nez avec le rasoir tout près. Et la nouvelle, vous la connaissez, dites. Il paraîtrait que notre grand homme n'est plus de ce monde. Quel grand homme! Quand il nomma Tartarin d'un peu plus, je me coupai avec son rasoir. Voilà ce que c'est que de se dépatrier, il n'a pas pu vivre sans Tarascon. Marc Aurèle le barbier ne croyait pas dire si juste. Sans Tarascon et sans la gloire, c'était sûr qu'il ne pourrait pas vivre. Pauvre bon maître, pauvre Tartarin. Tout de même, cette coïncidence, une éclipse le jour de sa mort. Et quel drôle de peuple que le nôtre! Je parie bien qu'en ville, la nouvelle aura fait de la peine à tous, mais ils ont affecté de prendre la chose très à la légère. Tout ça, parce que depuis l'affaire de Port-Tarascon, qui les a montrés si emballés, si exagérés, les Tarasconnais veulent paraître très rassis, très maîtres d'eux-mêmes, corrigés pour toujours. Eh bien, la vérité, c'est que nous ne sommes pas corrigés le moins du monde. Seulement, au lieu de mentir en delà, nous mentons en deçà. Nous ne disons plus « Hier, aux arènes, on était plus de 50 000 au moins, mais... » Aux arènes, hier, s'il en était une demi-douzaine, c'est tout le bout du monde. De l'exagération, tout de même.